Bonjour, c'est l'émission Il était une fois, l'émission sur le conte que vous connaissez bien maintenant. Et rappelez-vous, le conte, ça n'est pas que pour les enfants.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of.
Bonjour, c'est Chloé Gabrielli, la conteuse. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installée pour écouter les contes aujourd'hui. J'ai choisi que des contes sur les oiseaux. Oh, ça va sentir bon le printemps, les belles fleurs, ou bien si on est en automne, ça sent bon les châtaignes et puis les feuilles mortes. Enfin bref, vous êtes dans la nature, vous êtes prêts. Écoutez le chant de ces oiseaux et leurs histoires. Ça, c'est une légende amérindienne. En ce temps-là, les Indiens crocs connaissaient les tambours, les clochettes, mais pas la siocanta. En ce temps-là, un jeune chasseur était parti à la chasse à l'élan, espérant ainsi obtenir la médecine d'élan, qui lui permettrait de déclarer auprès de la belle jeune fille qu'il croisait tous les soirs auprès de la rivière son amour. Le jeune homme marcha donc longtemps sur la piste de l'élan. Il l'approchait, il bandait son arc, mais l'élan était plus loin, déjà hors de portée. La chasse dura tout le jour, comme si l'élan eût voulu amener le chasseur vers quelque secret. Puis vint le crépuscule, puis vint la nuit. Le jeune homme était seul dans la forêt. Il se roula dans sa couverture au milieu des cris et des chants de la nuit qui lui étaient familiers. Pourtant, non, il ne rêvait pas, il ne dormait pas encore, il entendit un son, un chant plutôt, un chant inconnu, qui s'éleva du fond de la nuit, une plainte délicieuse et envoûtante. Le jeune homme écoutait, fasciné, et insensiblement il sombra dans un sommeil rempli de rêves. Un pic épêche l'attendait, le pic à crête rouge, qui chantait cette plainte lancinante et l'invitait à le suivre. Au matin, le jeune chasseur s'éveilla. Sur la plus haute branche se tenait vraiment un pic épêche. Voltant d'arbre en arbre, il le guida jusqu'à un vieux cèdre, un tuya. Perché sur une branche sèche et dure, le pic se mit à la percer de petits trous, à coups de bec. Bientôt le vent se leva à son tour, comme la nuit d'avant. Et le chant mélodieux s'éleva à nouveau, s'échappant comme par magie de la branche sculptée par le pic épêche. Lorsque le jeune homme eut détaché la branche merveilleuse, celle-ci resta muette. Il décida alors de faire un dream fast, un jeûne pour rêver. 4 jours et 4 nuits sans manger, seul au sommet d'une montagne. Enfin, la dernière nuit du jeûne, reparut le pic épêche à crête rouge, qui lui enseigna toutes les finesses de la siocanta, la flûte des fiançailles, comment la sculpter en forme de longs coups et de becs de pic épêche, comment choisir une belle branche de cèdre, et surtout comment en jouer ensuite. Alors, à la nuit tombée, dans les fourrés proches du tipi de la si belle jeune fille, le jeune chasseur joua pour la première fois de sa flûte de fiançailles. La plainte merveilleuse et langoureuse s'éleva et vint chercher dans sa tente la demoiselle. Suivant le fil invisible de ce chant si mélodieux, elle se leva, sortit de sa tente et, un pas après l'autre, s'en vint dans la nuit auprès du jeune homme.
Somewhere over the rainbow.
Chez les Indiens Lakota, on explique cette histoire de corbeau. En ce temps-là, les corbeaux étaient blancs. Blancs. En ce temps-là, il y a si longtemps, sur la prairie aux bisons, au pays des Indiens Lakota, les corbeaux étaient tout blancs, blancs comme la neige. Oui, tête, corps, bec, pattes, ils étaient tout blancs. En ce temps-là, donc, les corbeaux blancs étaient les amis et les alliés des bisons. Tout blancs, du haut du ciel, ils surveillaient. Parfois, ils voyaient quelque chose bouger dans les buissons, devinaient que des hommes approchaient en rampant d'un troupeau de bisons pour tenter d'en capturer un. Alors les corbeaux blancs volaient à tire-d'aile vers leurs amis les bisons, se posaient sur leur dos ou entre leurs cornes et ils les alertaient. « Attention, quoi, disaient-ils. Attention, frère bison, quoi. Les hommes arrivent pour vous tuer, les hommes viennent par là-bas, derrière la petite colline. » Et les corbeaux s'envolaient tout blancs et les bisons s'enfuyaient au grand galop dans la direction inverse d'où venaient les chasseurs. Et les hommes revenaient bredouilles. Et sans la peau de bison pour faire leur tipi, leurs vêtements chauds et leurs couches, sans la graisse du bison pour faire le pemmican, et sans la viande de bison pour manger à mettre à sécher pour l'hiver, et sans les os de bison pour se régaler de la moelle et tailler les outils, sans les bisons, les hommes dépérissaient de jour en jour. Les femmes, les enfants aussi. Alors les anciens se réunirent en conseil. Et un vieil indien, un sage, parla. « Tous nos malheurs viennent des corbeaux blancs. Les bisons sont sur la prairie, presque à portée de nos flèches. Nous nous approchons et ces maudits volatiles, spécialement leur chef, le grand corbeau blanc, préviennent leurs frères les bisons et ils s'en vont au galop. Il nous faut capturer le chef des corbeaux blancs. Pour lui donner une bonne leçon. » Alors le vieux sage fit venir un jeune indien courageux et habile. Il le vêtit d'une belle peau de bison entière, avec les pattes, la tête et les cornes. Il lui dit « Va, jeune guerrier, avec ta peau de bison, sois bison, approche-toi des bisons, vis avec les bisons, dans 3 jours, nous viendrons, et voici ce que tu feras. » Il lui expliqua son plan. Alors le jeune guerrier partit avec sa peau de bison sur le dos. Il fut bison, il s'approcha des bisons, il vécut bison au milieu du troupeau. Au bout de 3 jours, les chasseurs s'approchent. Grand corbeau blanc voit les Indiens ramper vers le troupeau. « Quoi, attention, quoi, les hommes rampent vers vous, quoi, ils viennent par le petit ravin. » Et tous les bisons de s'enfuir au galop, tous, non. Un bison reste sur la prairie. Couché, endormi. Quoi, frère bison, vite, échappe-toi, quoi, les chasseurs arrivent. Mais le bison reste là, immobile, inconscient du danger imminent, comme vautré sur l'herbe de la prairie. Quoi, sauve-toi. Le grand corbeau blanc s'inquiète, il descend, il se pose entre les cornes du bison endormi, il agite ses grandes ailes blanches. Quoi, frère bison, réveille-toi, mais trop tard. Dessous la peau du bison jaillit 2 mains qui emprisonnent les pattes du pauvre grand corbeau blanc. L'oiseau bat des ailes, s'agite, tente de s'envoler, rien n'y fait. Le jeune guerrier sort une lanière de cuir. Il lie les pattes du corbeau blanc et les attache à une grosse pierre. La pierre sur l'épaule et le corbeau blanc de colère attaché à la pierre, le jeune homme rentre au campement avec tous les chasseurs. Les femmes ont allumé un grand feu de victoire. Tout le monde s'assied autour du feu avec le jeune homme et le corbeau blanc. Que faire pour le punir, pour lui faire honte? Il n'y a qu'à le brûler, il mérite la mort, dit un indien furieux. Il se lève et de rage se saisit du corbeau blanc et de la pierre. Il jette le tout au milieu du feu. Tirant sur la lanière, le corbeau blanc échappe aux premières flammes. Mais la fumée l'enveloppe, le noie, l'enfume. Il tousse, il crache, il suffoque, il va succomber, cramé dans les flammes. Mais le feu dévore aussi la lanière de cuir qui casse enfin. Grand corbeau blanc se sent libre, il s'envole, il s'échappe, mais en volant, il regarde son plumage et il découvre qu'il est devenu tout noir, noirci par la fumée à jamais. Depuis, il paraît que les corbeaux ne préviennent plus les bisons de l'arrivée des chasseurs, car le temps où ils étaient corbeaux blancs et leur noire punition ne sont pas oubliés. Continuons avec cette légende des Indiens Yamana qui peuplaient autrefois la terre de feu proche du Cap Horn. En ce temps-là, il y avait la nuit, et puis il y avait le jour, et tous deux se succédaient, sans aube ni crépuscule. Une fois, les hommes trouvèrent une baleine échouée sur la grève, tout près du Cap Horn. Ils la dépecèrent, la découpèrent, et ils firent cuire l'immense tas de viande et de graisse providentielle provision. Tout affairés, ils ne voyaient pas, ou ils ne voulaient pas voir, que Espul était parmi eux. Espul, le grand chaman moineau. Personne ne se souciait de lui offrir quelques présents, de l'aider même simplement à se découper quelques morceaux de viande, rien. C'était comme s'il n'était pas là. Certains même dans leur quête enfiévrée le bousculèrent, l'apostrophèrent. « Oh, le vieux, écarte-toi du passage !» Alors c'en était trop. Vers midi, le soleil étincelait au plus haut du ciel et tout à coup ce fut la nuit, le noir absolu. Terrorisés, accablés, les gens n'osaient dire un mot, faire un geste. Alors au milieu des ténèbres s'éleva la voix du chaman. « Oui, c'est moi, Espul le moineau !» Vous m'avez méprisé, vous m'avez bousculé, alors par ma magie, c'est la nuit la plus noire qui est tombée sur vous, et pour toujours. Alors les plumes et les ailes lui poussèrent, et Espul le moineau voulut s'envoler, laisser les hommes dans la nuit éternelle. Mais ils le supplièrent, le cajolèrent, se confondirent en excuses. Ils pleurèrent des larmes d'humilité retrouvées, ils promirent de vénérer à nouveau Espul le grand chaman. Alors seulement, Espul le moineau se laissa attendrir et revint sur sa malédiction. La tête parée de ses plumes de moineau, le corps peint en blanc, une ligne rouge tracée sur son visage, Espul le moineau dansa lentement en cercle concentrique, entonnant son chant de l'Est. Peu à peu, très lentement, la nuit s'effaça pour laisser place au jour, tout doucement. Depuis, tous les matins, Espul le moineau entame son chant de l'Est. Piou, 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 et lentement, à travers l'aube, il appelle le jour et efface la nuit. Il le fait sans se presser, afin que les hommes aient peur chaque jour et se souviennent qu'il faut respecter le grand chaman, Espul le moineau. What a wonderful world. On continue avec une légende de Birmanie. On murmurait qu'un magicien savait réveiller les morts. La lune, qui se voulait immortelle, désirait connaître le secret du guérisseur. Alors il lui fallait un messager. D'une caresse de ses doux rayons, elle s'en alla par une belle nuit réveiller le rossignol. Le rossignol, en ce temps-là, n'avait pas plus de voix qu'un quelconque moineau. La lune lui dit « Va-t'en chez ce magicien qui réveille les morts. Si tu perces son secret, tu auras ta récompense. » Le rossignol fila chez le magicien, se posa sur le bord de la fenêtre et se laissa tomber dans la chambre, écrasé sur le sol comme mort. Apitoyé, le magicien approcha de son petit bec un modeste pilon à piler le poivre. L'odeur fut si violente que l'oiseau éternua, toussa, ouvrit des yeux exorbités. « Te voilà ressuscité, petit rossignol, » dit le magicien. À la nuit tombée, il s'envola voir la lune et lui confia le secret du magicien. Celle-ci, fidèle à sa promesse, dit au rossignol d'aller boire la petite larme de lune qui luisait sur la prairie, accrochée à un brin d'herbe. Le rossignol s'en fut déguster la petite goutte de rosée toute argentée de lune. Quand elle glissa dans sa gorge, elle y déposa une voix d'argent, si liquide, si pure, si cristalline que la lune elle-même en fut émerveillée. Depuis, le rossignol chante toute la nuit de sa voix si précieuse pour remercier l'astre de lui avoir offert un si merveilleux cadeau, une larme de lune au fond du gosier.
Somewhere over the rainbow.
Une dernière histoire. En ce temps-là, les hirondelles étaient blanches. Blanches comme neige, me direz-vous. Eh bien non, justement, car de neige à cette époque, il n'y en avait pas. Disons alors qu'elles étaient blanches, du blanc le plus pur, le plus étincelant. Ce doux et merveilleux oiseau enchantait les hommes dans cet éternel été où ils vivaient bien heureux et paisibles. C'était même en observant le nid de leur blanche compagne que les hommes avaient pensé bâtir de solides maisons maçonnées au mortier de chaux. À quoi bon, me direz-vous, puisqu'il n'y avait ni hiver, ni froid, ni neige? Le monde allait ainsi bon train jusqu'au jour où un vieil acariâtre fut soudain lassé du manège des petites âmes blanches sous la bordure de son toit, lassé du piaillement incessant des bébés hirondeaux criant leur faim. Il brandit sa terrible canne et cogna, cogna, cogna jusqu'à détruire les quelques nids d'hirondelles alignés sous son toit. Il piétina les petits tombés à terre et il s'assit, satisfait du silence qui s'était abattu sur sa maison. La cruelle nouvelle fit le tour du monde aussi vite que le vol de l'hirondelle. Les petites hirondelles, si chagrines d'une telle cruauté, quittèrent la terre des hommes et se réfugièrent au ciel. Un silence de fer tomba partout sur la terre. Une chape de tristesse s'abattit sur les hommes, inconsolable du départ des petites hirondelles. Devant le chagrin des hommes, quelques hirondelles redescendirent sur terre. Et là, de peur qu'elles ne partent à nouveau, les hommes les capturèrent toutes à leur nid sur les rebords des toits et les enfermèrent dans une grosse tour sans porte ni fenêtre. Les malheureuses avaient beau crier et pleurer, rien n'y fit. Elles étaient prisonnières de l'égoïsme des hommes. Les gardiens, vite fatigués de tant de battements d'ailes, de cris, d'appels, furent bientôt excédés et fous de rage. « Au moins, vous ne volerez plus, maudites hirondelles !» Ils montèrent au sommet de la tour et attrapèrent une à une les petites âmes blanches, leur arrachant à poignées les plumes des ailes. Le fin duvet blanc tombait en voletant du haut de la tour, pendant que les grosses mains sales des bourreaux noircissaient les pauvres ailes. Le travail fut achevé. Les gardiens redescendirent vite, allumer du feu, réchauffer leur cœur cruel, mais rien n'y fit. Du haut de la tour, glacial mais toujours aussi léger, toujours aussi blanc, le fin duvet continuait de tomber. Tant et tant qu'il finit par recouvrir la terre de son blanc manteau de froid. La neige. Par le toit refermé trop à la hâte, les petites âmes, une à une, réussirent à s'échapper de la tour et filèrent sans trêve dans le ciel, laissant la terre des hommes méchants engluée dans sa couverture de gel et de tristesse. Bien des mois plus tard, les hirondelles revinrent, annonçant la fin de l'hiver et du froid. Mais elles restèrent en partie vêtues du noir des mains de leurs bourreaux. Depuis, chaque automne, elles repartent au ciel, laissant quelques mois les hommes dans le froid du blanc duvet de la neige. Oh, je suis sûre que vous vous souviendrez au moins d'une de ces petites histoires d'oiseaux, c'est obligé. Alors n'hésitez pas à les raconter à quelqu'un, c'est comme ça que le conte vit. C'est en étant raconté et en passant de bouche à oreille. Si vous n'avez pas tout bien retenu, ce n'est pas grave, les émissions sont rediffusées le mercredi et le samedi à 16h. Et d'ici nos retrouvailles, racontez-vous des histoires.